Dougou, 18h à Yaoundé, bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Au Cameroun, début ce jeudi à Bamenda, en zone anglophone, du Congrès national du premier parti d'opposition camerounais, le Social Democratic Front, le SDF, malgré les menaces des séparatistes anglophones et la journée ville morte observée par les commerçants de la ville à la demande des sécessionnistes. La réunion de 3 jours a lieu sous sécurité renforcée au palais des congrès de Bamenda, site prioritairement dédié aux activités politiques du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. À l'ouverture des travaux, le chef du SDF, John Fundi, éternel opposant au président Paul Biya, qu'il a déjà affronté sans succès 3 fois dans les urnes, a déclaré qu'il ne serait pas candidat à l'investiture du SDF pour la présidentielle de fin 2018. « J'ai décidé de céder ma place à mes jeunes cadets dans le parti », a-t-il souligné. En RDC, les autorités congolaises ont ordonné aujourd'hui la libération de 34 prisonniers détenus pour insurrection, fait de guerre et infraction politique. Parmi eux, 8 Mulongo Kalonda Mbambeta, ancien directeur de cabinet de l'opposant Moïse Katumbi. Arrêté fin août 2016, M. Mulongo a été condamné à 3 ans de prison pour détention d'armes et de munitions de guerre. Il est actuellement détenu à la prison de Kasapa à Lubumbashi dans le sud-est du pays. Sa libération conditionnelle interviendra dans un délai de 48 heures, le temps de terminer les formalités, a précisé le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, lors d'un point de presse ce jeudi à Kinshasa. Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga et ancien allié du président Joseph Kabila, est maintenant passé à l'opposition et a fait acte de candidature à la prochaine présidentielle en RDC. Poursuivi par la justice congolaise, l'opposant réside en Belgique depuis mai 2016, officiellement pour s'y faire soigner. Et puis en Ouganda voisin, 26 personnes qui avaient cherché asile dans un camp de réfugiés après avoir fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo sont mortes de diarrhée aiguë en 4 jours pendant ce mois de février. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'UNHCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, affrontement dans la nuit de mercredi à jeudi entre des islamistes armés et des éléments de la plateforme. La milice pro-gouvernementale à Bourem Inali, à 25 km de Tombouctou, dans le nord-est du pays. Les détails avec notre correspondant à Tombouctou, Abdoulaye Traoré.
Hier soir, à 20h, une position de la plateforme est attaquée à Bourem Inali. C'est à 25 km à l'est de Tombouctou. Selon les témoins, les combats qui ont commencé à 20h ont duré jusqu'à 1h du matin, avec des armes lourdes. Le bilan fourni par un responsable de la plateforme fait état de 7 islamistes tués. Côté plateforme, on ne déplore ni morts ni blessés. Mais le chef de poste, lui, est porté disparu. On se pose des questions s'il est mort, enlevé ou bien serait en fuite pour se cacher. Ce matin, un renfort de la plateforme s'est rendu à Bourem Inali. Comme on le sait, les islamistes sont capables de revenir à tout moment. On peut dire en ce moment que la localité est sous le contrôle de la plateforme. La plateforme est une coalition des mouvements armés composés de Gacha, MAA et la CMFPRN qui assure la sécurité dans certaines localités de Ber et Bourem Inali. Abdoulaye Traoré depuis Tombouctou pour VOA Afrique.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes en Afrique, 2 militaires tchadiens dont un capitaine ont été tués mercredi dans une embuscade de Boko Haram dans la région du lac Tchad près de la frontière nigériane, a annoncé à l'AFP aujourd'hui une source militaire tchadienne de haut rang. C'est la première incursion officiellement répertoriée du groupe djihadiste nigérian au Tchad depuis mai 2017, date à laquelle 9 soldats tchadiens avaient été tués par les islamistes. En dépit des affirmations répétées du gouvernement nigérian annonçant la fin prochaine de leur rébellion, les djihadistes de Boko Haram continuent la lutte. Par ailleurs, une 20aine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent demain à Bruxelles pour renforcer leur soutien au G5 Sahel, force régionale africaine qui combat les djihadistes à la lisière sud du Sahara. Emmanuel Macron, le président français et la chancelière allemande Angela Merkel seront présents à cette conférence aux côtés des chefs d'État du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad. L'objectif de la conférence de Bruxelles, mobiliser plus de 300 millions d'euros pour la force du G5 Sahel.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Eric Manila Kidza pour la Minute Echo. Le gouvernement sud-africain a augmenté la TVA de 14 à 15%. C'est la première depuis la fin de l'apartheid en 1994. La taxe sur les produits de luxe est passée de 7 à 9%. Les produits de base comme le riz et la revalorisation d'allocations sociales ne sont pas imposables. Le prix de la tonne de cobalt a grimpé à $82,000 mi-février sur le marché du London Metal Exchange. Le cobalt est crucial pour la confection des batteries des voitures électriques. Les besoins en cobalt ont été dopés ces dernières années par les smartphones et tablettes. Bien que la production reste supérieure à la demande, le marché devrait rester en surplus d'offres jusqu'en 2020 avec la matérialisation des prévisions de croissance exponentielle des ventes de véhicules électriques. En RDC, le président Joseph Kabila fait durer le suspense autour de la réforme du code minier qui envisage de multiplier par 5 une taxe sur le cobalt. En 2017, la RDC a fourni les deux tiers des exportations mondiales de son métal rare et très demandé. Le nouveau code prévoit aussi une taxe de 50% sur les super-profits. La population libérienne réclame ses droits sur la terre. La question de la propriété de la terre est cruciale. Le nouveau président George Weah a promis la clarté sur notamment la question de la terre et de permettre à des étrangers d'acquérir des biens fonciers.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
Let go.